Jésus, lorsqu'il a laissé ses disciples, lorsqu'il était temps pour lui de monter à la droite du Père, il a dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Mais avant de leur dire ça, Jésus leur a dit, « J'ai reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. » Et après leur avoir dit quelle mission était la leur, il leur a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons ce verset-là au chapitre 28, nous réalisons que Jésus a une autorité, mais c'est quelque chose de nouveau par rapport à avant. Dans l'évangile, on voit un moment donné où Jésus dit qu'il pardonne les péchés. Il va guérir quelqu'un qui était paralysé et il va expliquer qu'en fait, il a reçu sur la terre l'autorité, le pouvoir pour pouvoir pardonner les péchés. C'est intéressant que dans l'évangile, Jésus dise « J'ai reçu, le Fils de l'homme a reçu sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Un peu, ça c'est au chapitre 9. Au chapitre 10, à un moment donné, il est dit que Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons et de guérir des maladies. Mais ce n'est qu'au chapitre 28 que l'autorité de Jésus n'est plus seulement limitée à la terre. Parce qu'au chapitre 28, il est passé par ce que nous venons de célébrer. Il est passé par le plus grand abaissement et il est passé par la plus grande élévation. Il est passé par la croix, le tombeau, comme nous l'avons chanté, « Crucifié, seul abandonné, dans un tombeau laissé. » Mais il est passé par l'élévation aussi. Alors là, il a reçu toute autorité, non seulement sur la terre, mais dans tout l'univers, les cieux, ça veut dire tout le monde invisible, c'est pas le ciel avec les nuages. Il a reçu toute autorité dans le monde invisible, comme il a aussi toute autorité sur la terre. Et si le Seigneur dit ça à ses disciples, c'est parce que tout ce que Jésus est en train de bâtir, c'est-à-dire l'Église, ne peut reposer que sur cette autorité. En dehors de l'autorité de Jésus, l'Église périclite. En dehors de l'autorité de Jésus, l'Église décroît. En dehors de l'autorité de Jésus, de la soumission à cette autorité, l'Église tombe en ruine. Et donc c'était important qu'au moment de les laisser, il leur parle d'autorité et qu'il leur donne une mission. Et vous savez, hier matin, les anciens et moi, nous étions réunis ici pour prier dans le bâtiment. On était contents d'être ici, c'est la vérité. On est contents d'être ici. Dans mon cœur, j'étais content et en même temps, j'avais des larmes. Elles ne coulaient pas, mais elles étaient là. Il faut dire que j'ai des larmes facilement. Hein. Et nous avons prié et voilà comment on a fait. J'ai demandé aux anciens que chacun donne un texte qui lui venait à l'esprit et que nous puissions prier en fonction du texte que le Saint-Esprit avait placé sur le cœur. Le premier texte qui est venu était dans Chronique. Et lorsque Salomon nous a proposé Chronique, nous avons lu et nous avons vu dans le livre des Chroniques cette importance de marcher selon les préceptes de Dieu. Comment Dieu est en train de dire dans le livre des Chroniques, « Je suis prêt à vous bénir ». Mais c'est comme une bénédiction au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez dire au Seigneur, « Je voudrais que tu me bénisses comme ça, comme ça, comme ça », mais vous n'êtes même pas à la cheville de ce que le Seigneur est prêt à faire, quoi. Mais en même temps, il leur dit, « Si tu marches dans mes voies, si, hein, si le cœur est attaché à ces lois. » Et puis après ce texte, nous avons lu le psaume 61. Et dans le psaume 61, il y a d'abord un cri. Quelqu'un qui crie, le psalmiste qui crie au Seigneur, il supplie le Seigneur, il envoie une supplication parce qu'il est dans des jours de détresse. Et puis à la moitié du psaume, le psalmiste dit « Tu as entendu mes cris, tu m'as répondu ». Magnifique. Le Dieu vers qui nous crions est un Dieu qui entend. Et il ne se contente pas d'entendre parce qu'il nous aime et que nous sommes ce qu'il est en train de bâtir. Ce Dieu-là vers qui nous crions répond selon nos cris. Et puis pendant qu'on était en train de méditer ensemble, les anciens et moi-même, plus nous méditions et plus je pensais au peuple parti en exil, parti en déportation, et puis qui revenait dans son pays. Et je m'imaginais la joie de ce peuple d'Israël qui revient de Babylone, qui peut revenir dans son pays à lui. Et c'est avec ça que je voudrais que nous nous édifions ce matin. Ce sont des textes à la fois de joie et puis qui nous amènent en même temps à un engagement nouveau, comme à faire une alliance nouvelle avec Dieu. Parce que nous ne pouvons pas juste vivre sur l'engagement d'hier, nous devons vivre sur l'engagement que nous prenons chaque jour. Je vais prier et ensuite je continuerai. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier parce que nous sommes heureux d'être dans ce bâtiment. Nous savons que la pierre n'est rien, mais Seigneur, c'est bon d'être chez nous. Nous sommes tellement heureux d'avoir retrouvé notre maison. Nous sommes bien. Nous sommes contents. Le bâtiment est beau. L'intérieur est agréable. La louange est magnifique. Seigneur, nous te remercions pour tout ce temps-là. Et en même temps, Seigneur, tu es venu et tu n'as pas perturbé notre culte. Tu lui fais prendre l'orientation que tu veux qu'il prenne en ce jour pour te glorifier toi. Alors tu as saisi notre sœur, Véronique, pour qu'elle te demande pardon, qu'elle te le demande encore et encore et encore, comme si elle demandait elle-même pardon par ton esprit pour chacun d'entre nous. Comme si elle devenait le porte-parole de chacun d'entre nous, pour que nous nous examinions vraiment. Comme pour nous inviter à lâcher l'orgueil et à ne pas passer superficiellement sur le temps qui s'est écoulé loin de chez nous. Et ensuite, tu as saisi notre sœur Christiane pour nous rappeler que tu es sortie du tombeau. Et puisque tu es sorti du tombeau, ça veut dire que la vie remporte toujours la victoire sur la mort. Et le retour dans le pays remporte toujours la victoire sur l'exil. Et aujourd'hui, nous te remercions pour cette victoire. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de nous conduire dans toute ta pensée et dans toutes tes voies. Puisque nous avons lu au début du culte que tes voies ne sont pas nos voies. Ce ne sont pas nos voies que nous voulons suivre. Nous voulons suivre les tiennes. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais lire quelques versets qui sont dans Esdras, dans Néhémie. Je ne vais pas lire un passage et ensuite méditer, mais pendant que je vous parlerai de ces livres, en même temps, de temps en temps, nous prendrons quelques versets. Ce que je voudrais vous dire d'abord sur Esdras et Néhémie, c'est que ce sont deux hommes de Dieu, deux frères qui ont été... Alors je dis frères parce que je crois que nous les verrons hein, dans le royaume de Dieu. Hein. Ils sont là avant nous-mêmes hein, parce qu'ils ont été fidèles. Et ces hommes-là qui ont été suscités par Dieu, ils ne se sont pas autoproclamés bâtisseurs, reconstructeurs. Ils ont été suscités par Dieu. Et Esdras et Néhémie dans un temps, une période qui était particulièrement critique pour l'histoire d'Israël. Israël avait reçu une telle bénédiction dans le pays de Canaan. En fait, le pays de Canaan était en train de devenir leur pays. Il y avait déjà la royauté, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils vivaient vraiment la bénédiction de Dieu. Et puis à un moment donné, subrepticement, petit à petit, subtilement, ils ont commencé à mettre des principes de Dieu à côté. Peut-être qu'ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, mais Dieu a suscité des prophètes. Des prophètes pour avertir le peuple. Dieu a suscité des prophètes pour rappeler au peuple l'importance de vivre selon les lois de Dieu, l'importance de vivre selon les principes de Dieu, l'importance d'être soumis à l'autorité de Dieu. Parce que dans cette autorité, nous recevons une telle bénédiction. Et le peuple, à un moment donné, a négligé ces choses-là. Et ce que Dieu avait annoncé déjà longtemps avant s'est réalisé. Le peuple qui était dans son pays, pendant un temps, a perdu son pays. Pendant un temps, le peuple a été déporté. Le peuple s'est retrouvé dans un pays qui n'était pas le sien. Le peuple s'est retrouvé à Babylone. Et à Babylone, le peuple ne pouvait plus vivre comme il voulait vivre. Le peuple était obligé d'accepter les règles de Babylone, d'une certaine manière. Ils ont refusé d'adorer comme à Babylone. Mais par contre, ils n'étaient quand même pas chez eux, vraiment. Peut-être que certains Babyloniens leur ont fait bon accueil. Voilà, c'était pas l'esclavage non plus. Mais ils n'étaient pas chez eux. Et pendant toutes les années qui se sont écoulées, pendant ces 70 années, eh ben voilà, le peuple était là comme ça et ils réfléchissaient. Ça n'a pas été seulement un peuple où ils avaient hâte de retourner dans leur pays. Ça n'a pas été un temps seulement où ils avaient hâte de retourner dans leur pays. C'était un temps où ils réfléchissaient réellement. Ils cherchaient à comprendre pourquoi aussi longtemps ils avaient été déportés. Pourquoi ? Alors les prophètes leur ont expliqué. Et parmi les prophètes, il y en a certains qui ont fait exactement ce que nous avons vécu ce matin. Certains prophètes ont réalisé que le peuple devait s'humilier devant Dieu. Et certains prophètes se sont mis à prier alors qu'eux n'avaient pas péché. Certains prophètes se sont mis à demander pardon à Dieu pour leurs fautes, même celles qu'ils n'avaient pas commises, pour les fautes de leur père. Parce qu'ils sentaient que même s'ils avaient cette révélation que bientôt le temps serait venu de retourner chez eux, on ne pouvait pas retourner à la maison sans être passé par un réel examen. Sinon, ça voudrait dire rester des petits-enfants qui ne comprennent pas les choses. Et les prophètes ont parlé. Et le temps du Seigneur est arrivé. Et un jour, le temps de revenir à la maison est venu. J'imagine la joie du peuple d'Israël quand Cyrus leur dit « Vous pouvez retourner chez vous maintenant pour rebâtir Jérusalem ». Messieurs, mes amis, mais vous imaginez la joie. Vous avez vu comment on a applaudi le jour où, pendant les annonces, nous avons dit que nous pouvons reprendre les cultes à Franconville. Vous avez vu les applaudissements qu'il y a eu? Ça aurait pu continuer toute la nuit. Pour 2 ans. Imaginez le peuple d'Israël pendant toutes ces années. Et nous n'étions pas à Babylone. Nous étions chez nos frères et nos sœurs de Sanoa. Mais quand même, nous n'étions pas chez nous. Nous étions obligés de suivre leurs règles. Quand on utilisait le matériel, quand on utilisait la table de mixage, les haut-parleurs, les micros, il fallait remettre les choses comme elles étaient, comme on les avait trouvées. Je sais que certains avaient même peur de toucher aux choses. Parce qu'ils se disaient, oui, mais si on déplace ça, il faut qu'on remette comme c'était. C'était pas Babylone, mais c'était pas chez nous. Même si c'est vrai, mais nous sommes une seule grande assemblée, d'une certaine manière. Mais en même temps, nous sommes 2 assemblées dans la pratique et dans la réalité. Donc nous sommes l'église de Franconville-Sanois, mais nous sommes chez nous, vraiment, lorsque nous sommes à Franconville quand même. Quand le peuple d'Israël a su que le moment était venu de retourner en Israël et de rebâtir, mais bien aimé, mais quelle joie, retourner à la maison. Retourner à la maison, ça veut dire le temps où le Seigneur a voulu nous garder loin est passé. Ça veut dire que c'est un temps de restauration qui s'annonce. Ça veut dire que c'est un temps où des choses nouvelles pourront se produire. Et lorsque Esdras et Néhémie ont été suscités par Dieu, il y a eu 3 grandes étapes. La première grande étape, elle est dans Esdras, le livre d'Esdras, chapitre 1 à chapitre 6. Pendant cette période-là, cette première grande étape, certains sont revenus de Babylone et ils avaient 2 leaders, 2 conducteurs. Un conducteur qui jouait le rôle de roi, il n'y avait pas de roi en ce temps-là, c'était finalement un gouverneur et il s'appelait Zorobabel. Et il y avait un autre leader qui était d'une certaine manière le leader spirituel et c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur, Josué. C'est pas le Josué qui a succédé à Moïse, hein. Non, là, on est longtemps après. Hein. Là, c'est un autre Josué. C'est pas Josué, fils de Noun, successeur de Moïse. C'est Josué, fils de Yotsadak, certainement. J'oublie le nom de son papa. Ça veut dire qu'il y avait un leader pour le côté plutôt légal, juridique, de vie sociale, des choses comme ça, et un leader spirituel. Quand ils ont dû revenir avec une partie du peuple, ils se sentaient faibles. Ils se sentaient faibles. Et vous savez, quand ils sont revenus, l'ennemi faisait tout pour empêcher la reconstruction. Parce que revenir dans le pays, c'est une chose. Mais si c'est revenir dans le pays pour vivre dans les ruines, vaut mieux rester à Babylone. Si on revient au pays, c'est pour reconstruire quelque chose qui a été détruit. Et c'est pour reconstruire et même faire mieux encore. Mais lorsqu'ils ont commencé à revenir avec le peuple, Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur, Satan a cherché à les accuser. Satan a cherché à leur faire croire qu'ils ne pourraient jamais faire cette restauration. Et donc Satan, voici comment il a attaqué Josué. On le voit dans le livre de Zacharie, chapitre 3. On va prendre ça. Prenez Zacharie, le livre de Zacharie, chapitre 3. Et à partir du verset 1er. Zacharie chapitre 3, et voici ce que le prophète Zacharie voit. Pourquoi le prophète Zacharie ? Parce qu'au moment où il a fallu la restauration, il fallait aussi qu'il y ait des prophètes. Il y a toujours les trois, un roi ou un gouverneur, un souverain sacrificateur et un prophète. C'est les trois offices. Et dans toutes les périodes de l'histoire d'Israël, à partir du moment où il y a eu la royauté, Dieu a fait en sorte qu'il y ait les trois. Et ici, nous avons Zacharie, qui est le prophète du temps d'Esdras et de Néhémie. Comme Agée aussi, et Malachie un peu après encore. Et Zacharie, au chapitre 3, a une vision. Dieu lui permet de savoir comment il devra intercéder en faveur de Josué. Chapitre 3, verset 1. Puis, il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna « Ôtez-lui ses vêtements sales !» Et il ajouta à l'adresse de Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête !» Alors je m'écriai « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête !» On lui posa donc le turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Or l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. » Amen. Je te donnerai des guides. Il y a une autre traduction. Qui est-ce qui veut bien me lire le verset 6 dans sa version, une version seconde ? Merci. Il y a deux manières de traduire ce verset. Donner libre accès parmi ceux qui sont ici, nous sommes dans la cour céleste. Ou bien, je te donnerai des guides parmi ceux qui sont ici. Les deux, je pense, ça vaut le coup de retenir les deux manières de traduire. Parce que là, je vous explique, si vous n'avez pas bien compris ce qui se joue là. Josué est appelé à être l'un des deux conducteurs qui vont aider le peuple à retourner dans la maison pour restaurer. Pas juste pour être là, mais pour restaurer. Mais en même temps, l'ennemi a un projet d'accusation pour empêcher que Josué ait la liberté d'agir pour Dieu. Lorsque vous vous sentez accusé, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Vous vous sentez indigne, vous voulez juste disparaître. Et là, Dieu ne dit pas simplement à Josué, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Non, il va lui parler de la faute, mais il va lui parler aussi de pardon. Et il va lui mettre des habits de fête, de telle sorte que, purifié par le Seigneur, l'ennemi, l'accusateur, le diable, ne puisse plus l'accuser et qu'il ne soit pas empêché dans son ministère de restauration. En même temps, le Seigneur lui dit, soit qu'il va parmi les anges de la cour céleste lui donner des guides, c'est-à-dire le Seigneur utilisera les anges pour aider Josué dans son ministère, pour l'aider à comprendre les voies de Dieu. Soit le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, dans ton ministère, tu auras accès au trône, tu auras accès à moi. De toutes les façons, ça veut dire tu ne seras pas seul, tu ne seras pas seul. Le Seigneur va agir. Il n'y a pas que Josué que le diable a cherché à accuser et à détruire. À un moment donné, quand ils sont arrivés dans le pays, la construction du temple n'avançait pas. La première chose qu'ils voulaient construire, c'était le temple. C'est important. Ils ont compris que le tout, c'est pas d'être revenu à la maison. Le tout, c'est que l'adoration de l'Éternel reprenne. Donc ils sont revenus à la maison et maintenant ils travaillent pour que le temple redevienne un temple d'adoration. Mais ça prenait beaucoup de temps. Et à un moment donné, ça prenait tant de temps que Zorobabel commençait à se décourager. Alors à ce moment-là, une parole prophétique va être dite à Zorobabel. Et cette parole prophétique, en réalité, elle est dite pour Zorobabel, mais elle est dite à la montagne qui est devant Zorobabel. Et l'Éternel va dire, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. » Ça veut dire que Zorobabel voyait la tâche de reconstruction comme une telle montagne que pour lui, c'était juste impossible. Ils étaient revenus au pays, mais la reconstruction n'avançait pas. Et il a fallu encore cette parole prophétique pour qu'ils comprennent que Dieu leur disait « Ne vous inquiétez pas de la montagne qui est devant vous, elle sera aplanie. » Notre Jésus à nous, qui a reçu toute autorité, ne nous a-t-il pas dit que si nous avons ça comme foi, enfin, même plus petit que ça, la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Si nous disons à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, ça se fera. La montagne, c'est pas une montagne, c'est pas la peine d'aller parler à une montagne. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont allés devant une montagne pour voir si ça marche. La montagne dont il est question dans l'évangile, c'était le temple dirigé par les pharisiens. Et dont le temps était fini, mais qui empêchait à ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus, de donner leur vie à Jésus. Alors à cette montagne qui empêchait la foi d'avancer, Jésus dit, mais si vous dites à cette montagne-là, les pharisiens qui sont en train de mettre, qui ont la mainmise sur la foi, si vous dites à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, elle va disparaître. Qui es-tu ? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Le Seigneur n'est pas en train de dire, je vais essayer de t'aplanir. Tu seras, c'est fait, c'est déterminé dans l'Esprit de Dieu, dans son cœur. Alors, grâce à la parole prophétique, non seulement de Zacharie, mais de Agée aussi, d'un seul coup, l'esprit de Zorobabel, de Josué et du peuple se réveilla. Et là, ce qui avait pris des années, en quelque temps, c'était fait. Mais Dieu, à plusieurs fois, à plusieurs reprises, rappelle, si tu marches dans mes voies, pas si tu imagines une manière de faire les choses, si tu marches dans mes voies. Après cette première grande étape avec Zorobabel et Josué, voici que Esdras arrive. En fait, Esdras arrive, le temple est construit. Hein. Parfois, on a l'impression que c'est Esdras qui participe, qui donne l'impulsion, mais en fait, quand il arrive, le temple est construit. Et quand Esdras arrive, voici ce qui nous est dit sur Esdras. Ah non, je vais vous le dire tout à l'heure. La deuxième grande étape donc, du retour, c'est dans le livre d'Esdras, du chapitre 7 au chapitre 10. Dans cette étape-là, le leader que Dieu a suscité, c'est Esdras. Et le rôle d'Esdras, ce sera de remettre la loi de Dieu comme autorité suprême dans la vie du peuple. Et Esdras va le faire parce qu'il se rend compte qu'une reconstruction sans une réformation des cœurs n'est rien. Un retour dans le pays sans un changement de cœur, ce n'est rien. La troisième grande étape du retour, elle se trouve dans Néhémie, et là c'est tout le livre de Néhémie, chapitre 1 à 13. Et cette fois-ci, celui qui sera le grand conducteur suscité par Dieu, c'est Néhémie. Et Néhémie, lui aussi, dans ce temps de reconstruction, va comprendre l'importance de faire des réformes. Des réformes. Voici ce que les Écritures nous disent sur Esdras et Néhémie. En ce qui concerne Esdras, prenez le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras, c'est après le livre des Chroniques. C'est dans l'ordre. Vous avez un chronique, deux chroniques, et puis vous continuerez, vous tomberez sur Esdras. Donc Esdras, chapitre 7. Esdras, il a la grande joie d'être celui que Dieu envoie comme conducteur pour continuer la restauration, plus du temple, mais des cœurs maintenant. Et ce n'est pas un choix par hasard. C'est pas par hasard que Dieu choisit Esdras. Alors on va lire au chapitre 7, et avant de lire le verset 10, je vais commencer au verset 1. Plus tard, sous le règne d'Artaxerxès, empereur de Perse, vivait un homme nommé Esdras. Ses ancêtres, en ligne directe, étaient Seraïa, Azaria, Ilkia, Shalom, Tzadok, Aïtouv, Amaria, Azaria, Merayot, Zeraïa, Uzi, Buki, Abishua, Phinéas, Éléazar, fils d'Aaron le grand prêtre. Donc il est relié à un personnage clé de l'histoire d'Israël, Aaron, pour montrer que la lignée dans laquelle il est. Il n'y a pas tous ceux qui l'ont précédé, évidemment, mais c'est pour montrer des personnes clés auxquelles il peut être associé. Cet Esdras, donc verset 6, cet Esdras vint de Babylone. C'était un spécialiste de la loi, possédant une connaissance approfondie de la loi de Moïse, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnée à son peuple. L'Éternel, son Dieu, était avec Esdras, si bien que l'empereur lui accorda tout ce qu'il demandait. La septième année du règne d'Artaxerxès, un certain nombre d'Israélites, des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers et des servants du temple partirent pour Jérusalem. Donc là, nous sommes dans une deuxième étape de départ. Il y avait la première vague de retour avec Zorobabel et Josué, et maintenant d'autres Israélites qui étaient encore à Babylone. C'est la deuxième vague, ils reviennent aussi au pays. Et parmi eux, il y a Esdras. Verset 7. La septième année du règne d'Artaxerxès, un certain nombre d'Israélites, des prêtres et des lévites, des musiciens, des portiers et des desservants du temple, partirent pour Jérusalem. Esdras vint avec eux à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du règne de l'empereur. Il avait fixé le départ de Babylone au premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, grâce à la protection bienveillante de son Dieu.
En effet, Esdras prenait un grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Mes amis, j'aime tellement ce passage-là. J'ai pris la Bible Semeur parce que j'aime beaucoup cette version-là. Mais quand même, dans la seconde, il y a une petite expression qui est pas mal. Hein. Dans la seconde, il y a l'expression « la main de l'Éternel ». La bonne main de l'Éternel était sur lui. Et c'est répété plusieurs fois. La bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Mais nous savons pourquoi la bonne main de l'Éternel était sur Esdras, parce que ça nous est dit dans le passage. La bonne main de l'Éternel était sur Esdras parce qu'il s'appliquait à connaître les lois de Dieu et à les appliquer et même à les enseigner. Ça veut dire qu'il était attaché aux voies de Dieu. Et comme il était attaché aux voies de Dieu, tout ce qu'il faisait, lui réussissait. L'homme qui met tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, il porte du fruit en sa saison. C'est précisé après. Tout ce qu'il fait réussit. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et ici, c'est un tel homme que Dieu a pu utiliser. C'est un tel homme. Dieu ne peut pas utiliser des personnes qui ne passent pas le temps qu'il faut pour connaître la pensée de Dieu. Il ne le peut pas, puisque nos voies ne sont pas ses voies. Comment est-ce que nous pourrons marcher dans ses voies si nous passons plus de temps dans nos voies qu'à comprendre ses voies? Mais, on veut dire... C'est évident. Mais lui passait beaucoup de temps à rechercher les voies, le cœur de l'Éternel. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Conséquence, la main de l'Éternel était sur lui, tout lui réussissait. Qu'est-ce qu'il est dit de Néhémie ? Néhémie, quand on lit le livre de Néhémie, on va au chapitre 2. Allons ensemble à Néhémie. Donc Néhémie après Esdras, hein, vous n'avez pas besoin de... Hein, c'est après. Ça suit la chronologie, c'est comme ça. Donc Néhémie vient après, regardons le chapitre 2 de Néhémie. Et je vais lire à partir du verset 1. Parce que là, je crois que c'est important de comprendre, dans un temps de reconstruction, le type de personne dont Dieu a besoin pour faire son œuvre. Et au chapitre 2 de Néhémie, verset 1, « Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. » C'était le rôle donc de Néhémie. Hein. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu ne me sembles pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis, « Que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu. Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, « Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer à Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, « Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir, et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente, pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville, et pour bâtir la maison où je m'installerai. l'empereur me procura ses lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. »
Est-ce que quelqu'un peut me lire cette partie-là, la fin du verset 8, dans une version seconde ?
Le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi.
La bonne main de mon Dieu. C'est la main de Dieu qui dirige tout. La main de Dieu est bonne. Mais là encore, regardez quel type de personne nous avons devant nous. Nous avons quelqu'un qui est encore à Babylone et qui ne peut pas, malgré le fait qu'il ait une bonne situation au niveau social. Il a une bonne situation, je veux dire, il a accès au trône terrestre de Babylone, au roi de Babylone. Et le roi de Babylone le considère suffisamment pour s'inquiéter de lui, de son sort. Vous voyez, c'est pas comme si le roi, Néhémie fait son travail et puis le roi ne sait même pas si Néhémie est là ou pas. Non, le roi considérait suffisamment Néhémie pour le regarder et remarquer que Néhémie n'avait pas l'air qu'il a d'habitude. Ça veut dire que chaque jour, le roi regardait Néhémie et certainement il aimait voir Néhémie. Alors quand je dis il aimait le voir, attention, pas d'ambiguïté. C'est-à-dire il aimait voir la bonne humeur chez Néhémie, peut-être une joie, peut-être un sourire. Et ce jour-là, il se rend compte que Néhémie est triste. Et il lui demande, mais qu'est-ce que tu as ? Et là, nous comprenons quel est le cœur de Néhémie. Malgré toute cette bonne position sociale qu'il a, il ne peut pas se réjouir en sachant qu'il y a quelque chose à construire dans le pays qui est le sien, dans sa maison qui est la sienne. Il y a du travail à faire là et pour l'instant, le travail n'est pas encore fait. Alors, il ne peut pas se réjouir. Ça veut dire que Dieu appelle un homme qui a un cœur pour les affaires de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour la maison de Dieu, pour la ville de Dieu. Et alors, non seulement il a un cœur, mais il a du courage. Parce que quand le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu veux ? Il comprend bien qu'il va falloir qu'il prie d'abord. Donc, certainement dans son cœur, il fait une prière à Dieu d'abord. Parce que pour dire au roi, je ne peux pas être heureux avec toi. Alors que mon peuple n'est pas heureux. Il faut du courage pour le dire quand même, s'adresser au roi et lui dire que ce que tu me donnes ne me satisfait pas. Ce n'est rien pour moi parce que mon cœur souffre pour là-bas. Mais la bonne main de l'Éternel est sur ce type de personnes qui ont vraiment, pas dans la bouche seulement, mais dans le cœur, un désir de servir le Seigneur. Quel que soit ce que ça va leur coûter. Dieu a besoin de ce type de personnes-là qui sont prêtes à s'engager dans une reconstruction. Parce que retourner à la maison, c'est une chose, mais ce n'est encore rien. Retourner à la maison, c'est maintenant saisir la grâce que Dieu nous accorde de reconstruire. Revenir dans notre bâtiment, c'est comme revenir dans le pays. Mais ce n'est pas encore avoir reconstruit le temple. Revenir ici, c'est comme revenir dans le pays. Et Dieu a besoin de personnes maintenant qui auront une parole prophétique d'encouragement. Dieu a besoin de personnes maintenant qui auront un cœur pour s'impliquer dans la reconstruction. Dieu a besoin de personnes maintenant pour participer aux réformes indispensables pour la bonne marche de l'église de Franconville. Plusieurs fois, il est dit que la bonne main de l'Éternel était sur ces personnes-là. Et je crois que la bonne main de l'Éternel sera avec tous ceux parmi nous qui se sépareront des choses qui ne viennent pas de Dieu pour se consacrer à Dieu selon ses voies, selon ses lois. Nous ne vivons plus sous la loi ? D'accord. Nous vivons sous la grâce ? D'accord. Mais nous avons reçu l'Esprit de vérité ? Évidemment. Qui nous fait vivre selon la vérité, évidemment, et qui nous fait accomplir le but de la loi. Alors, bien-aimés, je me réjouis que nous soyons ici. Mais il y a du boulot. Vous avez cru que vous alliez revenir ici pour chauffer les chaises? Dernièrement, j'écoutais le message d'un pasteur et le pasteur disait qu'il se rend compte qu'il y a le ministère le plus répandu dans les églises locales, c'est le chauffage de chaises. Et il disait, mais c'est pas vraiment ça que Jésus nous a appelés. Il nous a appelés à construire quelque chose qui est spirituel. Bien-aimés, si vous voulez construire quelque chose de spirituel, une église locale, spirituelle pour Dieu, ce que nous sommes, et que nous devons devenir encore plus et encore mieux, nous sommes revenus ici, maintenant relisez toutes les épîtres du Nouveau Testament, pour que vous retrouviez comment on vit dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est ordonnée. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Relisez les épîtres pour vous souvenir. Marie, comment vous devez vous conduire avec vos femmes? Femme, comment vous devez vous conduire avec votre mari? Relisez les épîtres pour vous souvenir. Enfant, comment vous devez honorer vos parents? Relisez les épîtres, parents aussi. C'est trop facile toujours de dire les enfants envers les parents. Relisez les épîtres, parents, pour vous souvenir, n'irritez pas vos enfants. Relisez les épîtres pour voir quel est le rôle des anciens dans une église. Relisez les épîtres pour voir quel est le rôle de l'église par rapport aux anciens. Relisez les épîtres pour vous souvenir quel est le rôle des diacres et des diaconesses. Relisez les épîtres pour vous souvenir ce que c'est que adorer Dieu. Relisez les épîtres, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons oubliées. Il y a beaucoup de choses que nous avons oubliées. Quand Esdras est arrivé, avec Néhémie aussi, il y a eu un moment donné où ils ont relu la parole de Dieu. Ils ont relu la loi et ils ont expliqué à nouveau la loi. Et le peuple a à la fois eu des larmes et en même temps a explosé de joie. Il faut que l'autorité du Seigneur soit le principe d'action dans l'Église. L'Église de Franconville ne peut qu'être bénie, bien-aimée. Il y a tellement de potentiel dans l'Église. Il y a tellement de potentiel dans cette Église. Mais c'est impressionnant. Mais ce qui est potentiel est potentiel. Ça veut dire que c'est pas encore en action, c'est possible, mais c'est pas encore enclenché. Bien-aimé, le Seigneur vous donnera des responsables. Responsables que vous serez, relisez les épîtres. Parce que là où vous, responsables, irez, vous entraînerez l'église locale avec vous. Si vous allez dans la négligence, vous entraînerez l'église dans la négligence. Si vous allez dans la superficialité, vous entraînerez l'église dans la superficialité. Mais si vous allez là où Jésus va, vous entraînerez l'église là où Jésus va. Bien-aimés, arrêtez les murmures. Arrêtez ça. Bien-aimés, soumettez-vous les uns aux autres. Bien-aimés, honorez vos conducteurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous remplisse de bonnes larmes et qu'il nous remplisse d'éclats de joie au nom de Jésus-Christ. Amen.